Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis en compagnie de Étienne Lhôte. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Étienne ?
Eh bien, quelques minutes d'un raga, c'est-à-dire un morceau de musique de l'Inde du Nord, en l'occurrence qui s'appelle Jog. Raga, d'ailleurs, qui désigne à la fois, c'est comme une individualité musicale. Et ça désigne à la fois la forme d'un morceau classique de l'Inde du Nord, ou même du Sud, et le nom particulier de cet individu-là. Il y a des ragas qui correspondent aux heures de la journée, en particulier à la saison aussi. Voilà, c'est comme un personnage, par exemple, qu'un comédien va incarner. Et bien là, le musicien qui joue un raga va... appelle ce raga et lui donne forme à travers son instrument.
Alors avec toi Étienne et auditrice auditeur, vous l'avez compris, on va parler de musique indienne. On va aller dans le détail un peu de ce raga justement, et puis de ce projet sur Yanil avec lequel tu proposes des concerts notamment.
Oui, c'est ça, en particulier dans le Diwa où j'habite la moitié de l'année. Je migre un peu comme les oiseaux en hiver, je suis en Inde, mais donc j'habite près d'ici, près de Diwa, près de l'Eche en Diwa en fait. Et donc là c'est un concert avec un ami qui joue des tablas, puisque moi donc je joue de la flûte bansuri, la flûte traversière en bambou.
Et c'est ça, ce morceau était en direct, hein, c'est ce que je voulais rajouter.
Voilà, et donc là on a un concert avec un ami joueur de tabla à Minglon, le samedi 26 août.
Dans quel lieu, à Minglon ?
Ça s'appelle La Belle Étoile, c'est un gîte.
Ah oui, bon, on va préciser, puisque je l'ai devant moi, c'est au 550 Chemin des Morans, à Minglon. Donc samedi 26 août, à partir de 20h30, tu seras accompagné de Johan Pinheiro, au tabla.
C'est ça, c'est pas plutôt 19h
Ah bah là, sur l'affiche, c'est 20h30. Mais bon, venez à 19h.
Bon bah, de toute façon, il est recommandé de téléphoner.
C'est ça.
Pour s'inscrire auprès de Marie-Ange, qui indiquera les détails pour se rendre, et elle précisera l'heure, donc au passage, puisque je croyais que c'était 19h. Donc le numéro, peut-être...
06 81 97 15 81. Des informations évidemment qui seront aussi sur notre page internet qui va relayer cette interview que nous faisons ensemble. Je lis que tu es disciple de Pandit Hari Prasad Chaurasia, ai-je bien dit ? Alors donc, tu vas en Inde, tu dis une fois par an en fait, tu migres là-bas.
Depuis 1996, donc ça fait déjà un bon moment, 21 ans. En fait, j'ai J'ai joué de la flûte en métal quand j'étais enfant. J'avais fait aussi un peu de piano et de la flûte avec quand j'étais plus petit. Mais un jour, un ami m'a offert une petite bansuri. C'est comme ça qu'on appelle, puisque bansur, ça veut dire bambou. Et bamsa, en hindi, c'est aussi flûte. Donc, bansuri, c'est le nom de cet instrument, flûte traversière en bambou. Et donc, un ami m'en a offert une petite qu'il avait achetée à New York, d'ailleurs. Et j'ai tout de suite adoré la chaleur de ce son par rapport à la flûte en métal. Évidemment, c'est un instrument très simple où il n'y a pas de clé. Il y a juste le trou de l'embouchure où on souffle et puis 6 trous pour les doigts et 1 trou d'accord. Et donc, tout ce qui est chromatisme, on fait tout avec les doigts, ce qui demande un petit peu d'habitude pour être précis au départ. Et après, ça laisse une liberté extraordinaire. Et en particulier pour la musique indienne qui repose beaucoup sur les ornements, c'est-à-dire la manière dont on approche la note a autant d'importance que la note elle-même. Par exemple,
donc ça. Là, en vrai, tu nous as joué que la même note, enfin les mêmes emplacements.
Voilà, mais avec en venant de la note du dessous, de celle d'au-dessus, avec un petit mélisme, un petit chemin autour. Et donc, toute la beauté, ça s'appelle des gamakars d'ailleurs, ces ornements, mais toute la beauté de cette musique est dans ces ornements. Et donc, ça serait difficile de faire la même chose avec des clés qui sont des intermédiaires entre soi et l'instrument, quoi. Là, on a directement, on fait glisser le doigt sur le trou et... Voilà, on est vraiment...
Il est plus ou moins rempli, donc ça va changer le son.
C'est ça.
Alors là, on fait une opposition franche et claire avec la musique occidentale, hein, telle qu'elle a été codée. À un moment donné, il fallait faire des notes très précises pour pouvoir jouer en orchestre. La flûte en métal, c'est bon, la bonne flûte traversière, par exemple, qui effectivement a des trous très très précis. La flûte à bec également. On ne pourrait pas faire aller l'instrument au-delà, puisque tu as testé les deux. Ce ne serait pas possible, par des artifices, de faire sonner une flûte traversière autrement.
Oh, tout est possible. Ça m'est arrivé d'ailleurs de donner une petite initiation à la musique indienne à une classe d'élèves qui jouaient de la flûte en métal. Bon, finalement, voilà, on est assez créatif pour... On se débrouille. Puis avec les plateaux percés, ça fait quand même un petit trou au milieu. Mais c'est plutôt un handicap qu'une aide. Mais je crache pas sur l'instrument, hein, qui a un octave de plus. Là, j'en ai joué aussi de la flûte traversière en métal. Elle a son charme aussi. Et elle est très précise. Pour certaines musiques, par exemple, je sais pas, pour jouer du jazz ou de la musique classique, c'est quelque part plus adapté. Et moi, je travaille plutôt sur le défi inverse, c'est-à-dire que je ne joue pas que de la musique classique indienne avec le bansuri, je joue tout. C'est-à-dire, une fois, j'ai joué, comment ça s'appelle, Syrinx de Debussy. Ça, c'était un défi monstrueux parce que c'est plein de chromatisme. Et, parce que dans la musique indienne, il y a évidemment des gammes avec des demi-tons. Il n'y a pas de quart de ton, mais il y a des micro-tons quand même très très précis qu'on appelle des shrutis. Mais... en général, quand on joue un raga, on reste toujours dans le même mode, c'est-à-dire dans la même gamme. Enfin, c'est un peu plus, un raga, c'est plus subtil, on pourra revenir là-dessus, qu'une gamme. Mais quand même, donc les doigts font leur trou en quelque sorte, enfin, comme une chaussure, enfin, un pied dans une chaussure. Et une fois que c'est bien établi, c'est tout à fait différent de quand on joue, par exemple, je sais pas, du jazz. Si on joue Donnelly, il y a des chromatismes sans arrêt. On est obligé de faire des demi-trous. Donc ça, c'est vraiment une prouesse de faire ça sur un bansuri. Mais une fois qu'on s'y met, quoi, c'est du coup il y a des possibilités expressives assez. Toutes les ressources de la musique indienne peuvent être exportées dans le jazz ou le reggae ou toute ou même la musique classique. Et pour revenir aux ornements, bah, y a quand même, par exemple, dans la musique baroque, il y a une très grande, je ne suis pas spécialiste, mais une très grande richesse ornementale. Et ça s'y prête bien aussi, d'ailleurs. Par exemple, du Telemann, c'est exactement la tessiture, ça va très bien au bansuri aussi. Mais ça m'est arrivé d'en jouer un moment et des baroqueux me disaient que le bansuri a trop de son par rapport à la flûte baroque en bois, qui a des petits trous. Pour des puristes, c'est pas adapté, mais en réalité, on peut tout jouer quoi, avec le bansuri.
Le bansuri a une très grosse présence, effectivement. Avant qu'on aille un peu plus loin encore dans cet instrument, c'est quoi ton parcours, Étienne ? Tu disais que tu étais à la flûte. Quelle flûte tu faisais ? Pourquoi tu es venu à la flûte ?
Eh ben, j'ai joué de la flûte enfant, de la flûte à bec, un petit peu comme tout le monde.
En école, quoi.
à l'école, et, mais j'aimais bien ça. J'en jouais, j'avais une flûte en bois, pas en plastique, parce que pour moi, ça fait une différence quand même entre un matériau naturel et puis la vibration n'est pas la même. Mais donc, j'avais un feeling, un bon feeling avec même la flûte à bec, que n'ont pas forcément tous les écoliers à qui on impose ça, parce que ça fait partie du programme, quoi. Et après, j'ai fait du piano, que j'ai beaucoup aimé, parce que... Enfin, de toute façon, on avait un piano. Je viens plus ou moins d'une famille de musiciens, pas directement mes parents, mais plutôt la génération au-dessus, et des oncles, et tantes, et tout ça. Mais donc, on avait un piano à la maison. J'ai suivi 2 ans de cours de piano, mais j'avais des professeurs qui ne m'avaient pas énormément emballé, mais j'ai toujours continué par moi-même le piano. Et en fait, quand j'étais ado, j'avais 15 ans, je jouais sur... J'explorais des espèces d'univers de ma propre création au piano, et c'était pas si loin un petit peu de l'esprit d'un raga, c'est-à-dire une musique qui crée une atmosphère, qui crée un petit peu comme une musique de film aussi, qui crée une ambiance émotionnelle et tout ça, sauf que là c'était pas forcément très modal, quoi. Et donc voilà, le piano j'ai toujours continué tout seul, et puis donc j'ai étudié après pendant bien 5-6 ans la flûte en métal traversière au conservatoire, mais là c'est pareil, j'avais un prof, le courant passait pas spécialement. Et puis après, j'ai fait aussi du saxophone et j'ai joué de la batterie, voilà, même avant le sax, avec un groupe de rock, parce qu'il nous fallait un batteur et tout ça. Et donc, c'est un petit peu plus tard que j'ai découvert le djembé. Et moi qui avais donc étudié la batterie pas mal, fait une école à Paris avec Emmanuel Bourceau et l'indépendance, tout ça, j'étais un bon lecteur. Et donc, j'ai découvert le djembé, et puis à l'époque, j'étais dans la région parisienne, j'ai déménagé dans le Gard, et là, j'avais des voisins, un voisin qui était né en Afrique et qui jouait des percussions africaines, des percussions mandingues. Et ben, ça a été une révélation pour moi que ce gars qui... Alain Maillan, qui est d'ailleurs un très bon sculpteur, il était charpentier, puis il est devenu sculpteur avec... il avait une association qui s'appelait Le Pays sous l'écorce, je trouve ça. Il utilisait la nature, quoi, et faire des sculptures très fines en bois après. Mais donc, lui, il connaissait rien du tout au solfège et tout ça. Et j'étais scotché de voir qu'il avait une compréhension de rythme qui plus profonde, quelque chose qui me dépassait, quoi. Et donc, voilà, j'ai découvert quelque chose avec la musique africaine et la polyrythmie aussi. Par exemple, après, je pouvais m'amuser à faire à la batterie un même rythme qu'on fait tourner une polyrythmie à plusieurs, mais ça n'avait rien à voir parce qu'il y a une énergie de groupe aussi, il y a une écoute les uns des autres, il y a quelque chose de vivant et de profond, quoi. Et à peu près à la même époque, un ami m'a donné cette petite flûte en bambou qui venait donc de New York en tout cas. Et elle avait un très beau son, mais elle n'était pas tout à fait juste. Et donc, j'ai tout de suite beaucoup aimé le son. Et j'ai commencé à en fabriquer moi-même avec le bambou que j'ai pu trouver, comme ci, comme ça, en France. Et puis, il y a un ami aussi qui m'a parlé de la musique indienne pour la première fois, d'une manière qui a éveillé ma curiosité, en me disant que c'était relié à l'univers, il y avait quelque chose de cosmique, d'universel, enfin, je ne sais pas quoi. Ça m'a intrigué. Et j'ai acheté parce qu'il avait une pochette avec un beau coucher de soleil qui m'a plu comme ça à la FNAC à Paris un jour. Un disque de musique indienne d'Hari Prasad Chaurasia. C'est un disque d'ailleurs exceptionnel qui s'appelle la flûte de Hari Prasad Chaurasia. Ça a existé en 33 tours d'ailleurs avant, mais moi je l'ai eu en CD direct. Et c'est ce raga Yaman qui est un raga du coucher du soleil. Et donc... Je me suis mis à écouter cet album comme ça de temps en temps, et ça me mettait dans un état un petit peu méditatif, ça me touchait quelque part dans le cœur, vraiment, ça m'appelait, il y avait quelque chose de vraiment très profond. Mais il m'a fallu, puis donc j'ai déménagé dans le sud à ce moment-là, et ça a pris, je crois, 2 ans à peu près pour me dire quand même, si c'est si profond pour moi, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi dans cette musique, quoi. Et mais il a fallu du temps pour que je réalise que ce musicien qui jouait dans cet album, il existait quelque part sur la Terre et que je pouvais peut-être aller le rencontrer. Et puis il y avait dans la Drôme à l'époque, à La Roche-Saint-Secret, un centre qui s'appelait Chakra, pas très loin de Diolfi. Et c'était une danseuse indienne mariée à un Allemand qui... il y avait différents stages de danse et de musique, et entre autres... un jour, il y avait un stage de Drupad, c'est de la musique classique indienne, mais très pure, très austère, enfin une forme, voilà, qui existe toujours, bien sûr, maintenant. Et donc j'ai été là et j'ai rencontré Bob Lou, Bahauddin Dagar, le fils d'un extraordinaire, et lui-même, bien sûr, un très bon musicien, mais de Zia Mohideen Dagar, un joueur de Rudravina. Vraiment, il m'a encouragé à aller apprendre avec Chaurasia. Et c'est par ces gens que j'ai eu son contact, et le contact d'Henri Tournier aussi, qui est son assistant encore maintenant, je crois, au conservatoire de Rotterdam, où j'ai aussi étudié par la suite. Et il y avait aussi là Mariana Svasek, elle est tchèque par sa mère et hollandaise, et une très bonne musicienne aussi, très... Qui chante et qui joue du sarangi, c'est une espèce de violon indien, et elle-même connaissait aussi le drupad. Enfin, j'ai goûté à cette espèce de fraternité qu'il y avait aussi, cette espèce de... Parce que dans la musique indienne, finalement, c'est pour les Indiens, apprendre la musique, c'est aussi une sadhana, c'est-à-dire une démarche spirituelle. C'est pas juste un passe-temps, c'est quelque chose de plus profond, vraiment, qui met toute une vie à apprendre et tout ça. Et donc là, j'ai mis le pied dans quelque chose qui m'a vraiment touché et j'ai été encouragé. Je me souviens d'ailleurs, Bob Lou, on était sous un arbre et il me disait, voilà, si on veut dessiner l'arbre, on va dessiner le ciel autour des branches, quoi. C'est un petit peu comme ce que je disais par rapport aux ornements, c'est l'art de suggérer aussi, quoi. Enfin, lui, il m'a franchement encouragé à aller apprendre avec Arudio. Enfin, je suis peut-être un petit peu dans le désordre parce que j'ai été une première fois en Inde en 92 et j'avais été avec ma flûte en métal d'ailleurs. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que je me souviens, j'avais rencontré un gars, j'avais été entre autres à Mahabalipuram parce que j'avais lu dans le guide des routards que les Beatles avaient été là et puis que c'est... Voilà. Mmh. Et j'avais rencontré un gars qui étudiait la musique indienne à la flûte, mais ça ne m'avait pas spécialement intéressé, pas plus que ça. Je jouais du bac et tout, j'étais content là, avec ma flûte en Inde. Mais par contre... Le contact avec l'Inde a tout de suite été extraordinaire. Je me suis tout de suite dit, c'est le pays dont j'aurais rêvé quand j'étais enfant, quoi. C'était vraiment comme un... Et ça allait toujours un petit peu, mais maintenant, c'est vraiment devenu... Ça fait partie de ma vie et je me sens autant chez moi qu'ici, quoi. Mais voilà, donc ça a mis encore un petit peu de temps pour que je réalise que... Et ben voilà, que je pouvais aller rencontrer Chaurasia, et ça s'est fait en 94, je crois, quand j'y suis retourné la seconde fois, quand même, dans cette intention-là. Et puis après, ça a été encore un cheminement pour réaliser que si je voulais vraiment apprendre cette musique, c'était pas en y allant quelques semaines ou même quelques mois, il fallait vraiment... Donc j'ai commencé à aller, quand même pas toute l'année, parce que c'est plus éprouvant, et puis qu'au niveau des visas, c'est plus compliqué, mais depuis 96... j'y vais quasiment tous les ans, la moitié de l'année, quoi.
En fait, pour apprendre la musique, enfin, on va revenir sur l'Inde un petit peu après. Là où certains l'entendent un peu disharmonique, cette musique indienne, mais là où en fait elle est moins codée que la musique classique, toi-même venant d'un parcours classique, hein, on entend des Bach, on a parlé de jazz, un passage par le conservatoire, ces autres personnes au conservatoire de Rotterdam, bon, finalement, qu'est-ce qui fait que des musiciens classiques à un moment donné passent à la musique indienne, ou parlent pour toi, hein, qu'est-ce que tu as découvert en plus, au-delà de l'aspect spirituel, hein, qui est effectivement très très important dans la musique indienne?
C'est très intéressant. Juste quand même une précision, c'est que en fait le conservatoire de Rotterdam,
c'est
quand même pas la porte à côté. Non,
d'accord.
Je veux dire,
ah oui.
C'est venu après pour moi. C'est venu après que au moins 2-3 ans où j'apprenais déjà avec Chaurasia à Bombay. C'était pour parce que je voulais au moins dans ma vie une fois terminer un diplôme, et tant qu'à faire qui m'a d'ailleurs pratiquement jamais servi parce qu'il n'y a pas d'équivalence européenne vraiment. Il aurait fallu que j'aille habiter en Hollande pour enseigner là-bas. Mais ça m'a permis d'avoir des cours particuliers avec lui, d'avoir aussi d'apprendre plein de matières autour, de construire une connaissance de la musique indienne plus complète et plus documentée, disons. J'ai écouté beaucoup de musique classique et du jazz aussi, mais j'étais quand même, quand j'étais ado, c'était aussi du rock, enfin, je sais pas, David Bowie, Lou Reed, tout ça. J'étais pas un 100% classique, j'étais ouvert à plein de choses, quoi. Mais donc, qu'est-ce qui m'a accroché vraiment dans la musique indienne? Alors, ça a été un ensemble, je dirais, trois choses. Il y a d'une part l'instrument. Et d'ailleurs, là, je me souviens d'un rêve que j'avais fait où je revoyais mon prof de flûte que j'avais eu, de flûte traversière. Et j'avais une flûte qui était sinusoïdale, qui était en bois. Et je lui disais, maintenant, je joue de cette flûte-là. Et les flûtes indiennes, celles que je tiens dans la main, le bambou, c'est pas du tout sinusoïdal. Mais c'est comme les rivières en général, c'est pas tout droit, c'est pas comme des autoroutes, ça sinue, c'est la vie, quoi. Et c'était un symbole pour moi évident de quelque chose d'organique, de vivant, quoi, de, oui, organique, je vois pas un mot plus adapté, quoi. Voilà, il y a l'instrument, et puis hein, le bambou, c'est une herbe, ça sort de la nature, c'est pas coulé dans une usine, c'est le métal ou le verre ou la porcelaine, c'est, ça n'a pas du tout le même son que le bambou, il a une chaleur, quoi, c'est des fibres, c'est... et tous les bambous ne sonnent pas aussi bien.
Oui,
bien
c'est
sûr,
ça. Hein, voilà. Ouais,
ouais. Donc, il y a l'instrument, il y a la musique elle-même, évidemment, alors avec ce côté, donc le fait que ce soit modal, ça développe une... Bah, puis il y a la tempura aussi, donc là j'en ai une version électronique.
Qu'on appelle le bourdon. Hein.
Ouais. Bah, voilà, le bourdon c'est un terme qu'on utilise aussi dans la musique médiévale ou tout ça.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais c'est un instrument à cordes en Inde, la tempura aussi, donc, qui rappelle la tonique avec la quinte. Enfin je veux dire, c'est d'établir une note permanente et on entend toutes les notes du raga dans leur relation avec cette note fondamentale. Un petit peu comme si on peignait un tableau avec un fond et que toutes les couleurs prennent leur signification dans leur relation avec le fond, quoi. Dans l'absolu, ce n'est pas complètement différent de ce qui se passe dans l'harmonie, dans la musique tonale, c'est-à-dire dans le jazz ou la musique classique. Mais sauf qu'au lieu de changer d'accord et de tonalité toutes les mesures ou très souvent, là... la référence reste toujours la même, donc ça permet un approfondissement. L'écoute se développe dans la subtilité. Ça développe une autre profondeur de l'écoute, quoi, et aussi avec tous ces ornements, quoi.
Et cet aspect méditatif et psychédélique, j'allais dire, hein, presque immédiatement. Hein.
Absolument. Voilà. Et bien ça, justement, c'est intéressant que tu dis ça, parce que y a pas à aller chercher très loin si on met un peu le nez dans la spiritualité indienne, quoi. Dont le cœur, c'est ce qu'on appelle l'Advaita, ça veut dire l'un sans second. Et j'ai d'ailleurs passé pas mal de temps en Inde à Tiruvannamalai, Arunachala, qui est une montagne, c'est là où a vécu Ramana Maharshi, qui était vraiment l'incarnation même de l'Advaita, c'est-à-dire dès qu'on a encore un dieu, il y a soi et dieu, ça fait deux. Alors que l'Advaita, il ne peut plus y avoir ça, c'est-à-dire c'est une quête, enfin bon, c'est difficile de résumer à ça en mots, mais entre autres, une de ses approches. Quand il verbalisait ce qu'il disait, c'était ce qu'il appelle l'auto-investigation, c'est se poser la question « qui suis-je ?», c'est-à-dire retourner l'attention vers l'intérieur, évidemment sans attendre de réponse, c'est juste pour toucher du doigt la conscience sans objet, c'est-à-dire notre véritable nature, quoi. Et dans la musique indienne, finalement, la tempura symbolise ce « je suis », c'est-à-dire l'essence de notre être, quoi. D'une part, qui est commune à chacun, si on va finalement assez en profondeur, c'est ce qui nous permet de communiquer justement, c'est ce qu'on a tous, le fond commun qu'on a tous en commun, par rapport à notre mental et nos pensées, et voilà, notre ego, ce discours auquel on est, si on est identifié à ça, ben on reste dans la superficie. Et donc, quelque part, l'art du raga, c'est être à l'écoute de sa tempura. C'est en parallèle avec l'écoute de son être profond et de s'accorder à ça, quoi. C'est l'art de l'écoute subtile, quoi. Et d'une manière plus concrète, si on peut dire, musicale aussi, ça a été moi qui pensais avoir une oreille, une très bonne oreille musicale, quoi. D'après les études que j'avais faites, les gens que je rencontrais, tout ça, j'avais un petit peu cette sensation-là. Et ben, je me suis aperçu que c'est comme un couteau qu'on croit très aiguisé, mais si on grossit au microscope, ben en fait, on s'aperçoit que la lame qu'on croit absolument parfaite, ben en fait, elle est pleine de... On peut aller toujours beaucoup plus loin, en fait, et arriver jusqu'au micro, nano, je ne sais pas quoi. Et donc là, en étudiant la musique indienne, ben j'ai vu que je pouvais affiner encore beaucoup plus loin, que ça repose vraiment là-dessus, la musique indienne, les shrutis. Et ce que j'ai tout de suite entendu, ben, ce côté saisissant, mystérieux, prenant dans la musique indienne, et la beauté de cette musique vient de cette justesse, quoi, qui est extrêmement fine et subtile, quoi. Et par exemple, un raga, ben, un micro-ton près, si on n'est pas tout à fait dedans, ben, c'est pas ça, quoi. C'est exactement comme un être humain, quoi. On croit reconnaître quelqu'un et puis... Ben non, le nez, la manière de marcher, il y a un truc qui cloche. Non, c'est pas lui, c'est pas elle. Voilà, il y a quelque chose de vraiment très très précis, quoi. Et alors, pour revenir à ce qui m'a donc accroché dans la musique indienne, il y a l'instrument organique, quoi, et il y a la profondeur de cette musique qui véhicule cette spiritualité indienne, voilà, qui est universelle, bien sûr, mais qu'ils ont spécialement développée dans ce coin-là de la planète, quoi. Et une tradition, évidemment, qui est très, très ancienne aussi, parce que voilà, les ragas, c'est aussi une espèce d'état d'esprit en Inde de pouvoir, bon, qui change pas mal aussi en ce moment, il y a au contact des Occidentaux, enfin, du moins en surface, mais il y a quand même l'idée de toujours s'améliorer plutôt que de changer tout le temps pour faire... voilà, c'est on approfondit et on n'a pas peur. La relation avec le temps est très, très différente, quoi. Et puis, le troisième élément, eh ben, c'est... Hari Prasad Chaurasia lui-même, qui est vraiment un génie créatif extraordinaire, qui à la fois donc véhicule et incarne toute une sagesse, enfin une intelligence millénaire de cette musique indienne, et qui a à la fois beaucoup d'humour et de créativité et s'en démarque. Enfin, il n'est pas du tout scotché dedans, et voilà. Donc son propre génie personnel m'a aussi beaucoup influencé. Et même pendant des années, j'étais vraiment complètement... je me suis rendu compte que tous les musiciens qui apprennent la musique indienne ne sont pas forcément à ce point identifiés et disons, inspirés par leur professeur, quoi.
Tu étais un pur disciple, alors. On va en parler un petit peu après, si tu veux bien, de ce parcours d'études avec Chaurasia, notamment. On fait une petite pause en t'écoutant encore jouer quelque chose ?
Volontiers. Alors. Et comme tu me parlais de justement le côté dissonant, voilà, j'ai envie de donner un échantillon de raga qui au début me semblait très très dissonant et j'ai fini par leur trouver beaucoup de charme et les adorer, quoi. Y en a un qui s'appelle Todi, mais c'est un Todi, pas comme un Todi, mais T-O-D-I, qui est un raga du petit matin. Et là, vu leur qu'il est, j'ai plutôt envie de jouer un petit peu de Marwa. Qui a un raga de l'après-midi. Parce que bon, c'est l'avantage de la technologie. Là, j'ai un logiciel qui s'appelle iTabla Pro et il y a des presets. C'est-à-dire, on peut mettre la tempura et ça donne déjà un peu les couleurs du raga en question.
Alors, je rouvre. Voilà. On fait un changement de note, donc.
Voilà, c'est ça. Thank you.
Toujours avec Étienne Lotz sur RDIWA, à l'écoute d'un raga de l'après-midi. Alors, ceux qui ne sont pas fins connaisseurs diraient, mais elle est où la différence?
Eh bien, d'ailleurs, chez moi, ça vient d'un festival où ça existe en Inde assez souvent, et parfois en France ou en Europe, des nuits du raga, où justement on fait le tour complet de l'horloge, donc on peut entendre... parce que des ragas de toutes les heures, parce qu'évidemment, les concerts, en général, c'est souvent le soir, ou en Inde, il y a souvent des concerts en fin de matinée aussi, parfois. En France, c'est plus rare, mais donc c'est même au petit matin, une fois, la dernière fois que j'étais à Bombay, justement, j'ai accompagné Chaurasia et avec d'autres disciples, mais on avait rendez-vous, je ne sais plus, à 5 heures, et le concert était à 6 heures du matin, quoi, et on se demande comment il peut y avoir du public qui vient à cette heure-là, mais ça arrive, il y a quand même pas foule, mais il y a des gens, puis après, ça continue un petit peu, et... Voilà, mais donc, il y a quand même des règles un petit peu que par exemple, dans Marwa, là, le raga que je viens de jouer, dont d'ailleurs, une impression assez spéciale dans ce raga, c'est que la tonique, donc la note principale, quoi, qu'on entend, que la tempura maintient, tout ça, elle est donnée avec parcimonie, on la donne au dernier moment. Donc il est toujours suspendu sur le premier demi-ton, si c'était un do, sur le do dièse, disons. Et ça crée une espèce d'impression particulière, quoi. Parce que le nom des notes dans la musique indienne, c'est sa re ga ma pa da ni sa, comme do ré mi fa sol la si do, sauf que nous, on a le la 440, enfin, ou d'ailleurs, parfois ça peut être un peu plus, où il y a des gens qui sont adeptes du 432 parce qu'ils disent que c'est plus organique, quoi. C'est des hertz, hein, bien sûr, c'est ce qui mesure la hauteur d'un son. En Inde, c'est pas pareil. Le sa, c'est la tonique et c'est pas du tout fixé. C'est-à-dire, moi, j'ai des flûtes de différentes tailles et là, celle que je joue, le sa, c'est un mi. Mais pour un chanteur, ça va être do dièse. Pour une femme, ça va être autour de sol. Voilà, un sitar, c'est aussi souvent do dièse. Enfin, suivant l'instrument, voilà, le sa n'est pas du tout fixé. C'est simplement le nom de la tonique, quoi. Et donc là, dans ce raga, donc le komal ré, c'est-à-dire si la tonique était un do pour faire, c'est plus familier pour pas mal de gens qui connaissent un peu la musique, par exemple, et ben le komal ré, c'est comme le do dièse, c'est-à-dire la note qui est un demi-ton au-dessus de la tonique. Eh bien, Marwa, qui est un raga de l'après-midi, eh bien, ce komal ré, il est beaucoup plus haut que son équivalent dans un raga du matin, dans justement Todi, dont je parlais. Alors, évidemment, il faut l'oreille un petit peu développée pour entendre la nuance, hein, mais ça se mesurerait avec tous les smartphones, on peut facilement avoir un accordeur électronique. Ben on verrait facilement, ça serait dans le rouge par rapport, si c'est vert quand on est juste sur la note, il y a quand même une différence qui est tout à fait visible et audible. Et on l'entend avec un petit peu d'habitude, pas forcément, j'ai jamais trop essayé ce test, de deviner un raga de quelle heure de la journée il est, mais puis c'est pas des règles absolument strictes, parce qu'il y a certains ragas, d'ailleurs il y a des ragas qui viennent de la musique carnatique, qui, eux, n'ont pas des règles très strictes et qui sont... Il y a certains ragas qu'on peut jouer à toute heure et qui passent bien. Parfois, il y a des ragas du soir ou de la nuit qui passent bien le matin aussi. Voilà, c'est pas non plus... Mais
l'idée, c'est de créer comme ça une progression, différentes vagues dans la journée. On monte peut-être du matin vers l'après-midi, on redescendra le soir suivant la période de la nuit. Tu sais ça?
Bon, on pourrait le dire comme ça, mais... Enfin, je voudrais préciser un truc d'ailleurs, c'est que... Je vais commencer par cette petite anecdote. Une fois, j'avais lu une interview dans The Hindu, c'est un journal indien, mais il y avait un fascicule consacré à la musique classique indienne et son avenir avec les transformations de la nouvelle technologie, le fait que les musiciens indiens aient joué en Europe, aux États-Unis, tout ça, et enfin...
Fusionner avec d'autres styles.
Et les nouvelles, nouvelles technologies, parce que c'est vrai qu'on trouve des aberrations comme des... apprendre jouer la musique indienne avec un clavier électronique où on peut faire aucun ornement, enfin avec des pitch bends sur le côté on peut faire quelque chose, mais enfin c'est bon, on trouve tout est possible, quoi. Et donc la question c'était quel est l'avenir de la musique classique indienne, et il y avait Kishori Amonkar, une chanteuse extraordinaire qui est morte d'ailleurs cette année, mais vraiment elle avait une voix mais bon qui me touchait mais extraordinairement. Elle pensait que c'était la fin, que cette musique était en train de mourir parce que les jeunes n'avaient plus la patience d'apprendre, parce que voilà. Ça. Et donc j'avais posé une fois la question à l'époque où j'apprenais avec lui, où je le voyais, enfin quand j'étais en Inde tous les jours ou presque à Chaurasia, ce qu'il en pensait lui. Et sa réponse, j'avais trouvé ça extraordinaire. Il m'avait dit, mais qu'est-ce qui va empêcher le soleil de briller, quoi? Et c'était évident que ce n'était pas une musique qui est créée par les hommes. On la reçoit, on la transmet, mais donc elle va, évidemment, elle se transforme, elle change de forme, il y a des nouvelles, des rencontres, des mélanges et tout ça, mais dans son essence, elle ne peut pas... qui est-on pour la modifier? Elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de nous, des êtres humains, quoi. Et comme les Védas, par exemple, les textes sacrés indiens, eh ben, c'est comme s'ils rayonnaient en permanence de l'univers, de la clarté des étoiles. Enfin, ils sont en permanence émis par la source et on peut les recueillir. Je ne sais pas si la Bible a été écrite de cette manière-là, mais ce n'est pas créé par un mental humain. On peut juste les capter et les transmettre, comme cette musique d'ailleurs. Voilà, et je crois que les ragas, c'est de cette nature. Un peu, on pourrait comparer ça à des constellations qu'on voit... donc c'est pas inventé par les hommes. Même les instruments de musique, on dit que c'est des sages qui en méditation les ont vus, mais ils n'ont pas été, fabriqués comme après tout peut-être toutes les inventions. Enfin je sais pas, enfin comme une voiture ou je sais pas une nouvelle. Mais par exemple, je crois que le nombre de frettes comme sur une guitare, hein, sauf que c'est pas tout à fait pareil, mais sur un sitar, je crois que ça correspond au nombre de vertèbres de la colonne vertébrale, par exemple. Et enfin, il y a des résonances comme ça. Et la flûte, je n'ai jamais rien vu d'écrit traditionnel à ce sujet, mais il y a plutôt une résonance avec les chakras, par exemple. Voilà. Il y a des gens qui pensent maintenant, on a 9, 11, je ne sais pas combien de chakras, mais enfin, le système simple avec 7 chakras, le trou où on souffle, c'est comme le chakra de la couronne, et ça, c'est les autres. Enfin, ah, tout ça pour dire que voilà, les ragas, ils suivent naturellement les cycles, effectivement. Moi, je le vois comme ça, c'est une manière d'être dans l'instant présent, de s'harmoniser avec l'instant présent et d'une manière vibratoire. Enfin, voilà, la musique, c'est entre la matière et le subtil. On l'entend quand même, ça vibre, ça peut déplacer de la limaille de fer, tout ça, mais ça reste du subtil, quoi. Voilà, c'est une espèce de manière de s'harmoniser avec l'instant présent. Donc, effectivement, on ne sent pas la même ambiance l'après-midi ou quand il fait chaud, quand il fait froid ou au milieu de la nuit. Donc, même sans, en se passant de toute théorie, si on est juste subtilement à l'écoute, voilà. Même à la limite, quelqu'un qui écoute du rock ou du reggae, il ne va pas forcément mettre les mêmes morceaux à midi ou à minuit, quoi. Donc, sauf que là, c'est développé et élaboré subtilement, quoi.
Alors, je me heurte aussi à des questions d'occidentales dans nos carcans bizarres, hein, qui devraient être bizarres, en tout cas pour des Indiens, là où eux ont une autre type de connexion spirituelle. C'est bien toujours de le rappeler. Alors, cette rencontre avec Chaurasia, comment on s'approche d'un maître, d'une discipline? T'accepte-t-il tout de suite? Quid du blanc qui débarque, qui veut apprendre ça? Est-ce qu'ils font une différence entre les natifs, qui n'apprennent plus d'ailleurs, j'ai entendu dire? Voilà.
Quand même, il en reste.
Oui,
mais,
bien sûr.
Alors, traditionnellement, à l'origine, il y a ce qu'on appelle les gharanas. Gar, ça veut dire maison, donc c'est une lignée. Et il y a une époque où chaque lignée gardait jalousement ses secrets. Et le seul moyen de rentrer, d'être initié, c'était d'épouser la fille ou de rentrer dans la famille, quoi. Et ça a quand même changé depuis longtemps, entre autres avec... All India Radio, qui représente vraiment quelque chose de très différent de Radio France, par exemple, en France, quoique peut-être ça a aussi quelque chose, mais qui a permis de rapprocher des gens qui, géographiquement et culturellement, ne se connaissaient pas du tout. Et donc, il y a une unité, même maintenant, entre la musique du Nord et du Sud de l'Inde, il y a des tas de rencontres et les gens communiquent. D'ailleurs, même au niveau du langage, maintenant, avec le business, il y a des gens qui vont travailler. Enfin, bon, c'est tout un contexte parce que même d'ailleurs maintenant, alors que les Indiens voyageaient il y a encore peut-être 10 ou 20 ans seulement pour des pèlerinages ou pour un mariage ou quelque chose, maintenant, il y a toute une classe économique qui, contrairement à en Europe et aux États-Unis, la classe moyenne est en expansion, alors que nous, c'est plutôt le fossé qui se creuse des riches, plus de riches, des plus riches et des plus pauvres. Là-bas, c'est le contraire. Donc, il y a des tas d'Indiens qui commencent à voyager, à faire du tourisme, à découvrir leur propre pays, alors qu'on connaissait, nous, souvent, les Occidentaux qui voyagent en Inde, mieux que eux, parce qu'eux, ils restaient là, dans leur état. Et voilà, donc ça change. Mais pour revenir donc à la musique, ça a quand même changé depuis pas mal de décennies. Et d'ailleurs, je veux dire un mot au passage de... Chaurasia, il a appris avec... Il était déjà très jeune, très doué pour la flûte. Et il a joué... de la musique plus légère, parce que, entre autres dans l'industrie du film, parce que encore de nos jours et depuis très longtemps, la musique en Inde, leur film, c'est beaucoup comme des comédies musicales. Il y en a toujours des chansons et des musiques, donc ça emploie beaucoup de musiciens. Donc lui, il a commencé comme ça dans l'Orissa et tout ça. Et il était déjà connu et très doué comme musicien quand il a vraiment appris la musique classique indienne avec la fille d'un musicien extraordinaire qui s'appelait Baba Alauddin Khan et qui a eu une vie très difficile. Il a eu lui-même beaucoup de mal pour rencontrer des maîtres qui vraiment lui apprennent. Parce que c'était à une époque où justement tout était... Il y avait des murs
privé,
et tout ça.
Et voilà. Puis transmis si on avait envie de transmettre. Quoi.
Exactement.
Ouais.
Et lui, il a vraiment contribué à faire tomber les barrages et les règles, le côté dogmatique qui coupe la vie et tout ça. C'était un esprit complètement libre et ouvert à tout. Et il jouait de tous les instruments. Et moi, j'avais entendu parler un petit peu de lui, et par Chaurasia, entre autres, qui a été sur ses genoux quand il était petit. Puis donc, il a appris avec sa fille, mais enfin, il était quand même pas la même génération. Mais il se trouve que l'année dernière, j'ai été à Benares, à la Drupad Mela, justement, enfin, qui est un truc où justement il y a de la musique, des chanteurs toute la nuit et tout ça, il y avait une ambiance extraordinaire et il y avait un petit stand avec des bouquins, il y avait une biographie de ce musicien Baba Alauddin Khan, écrite par la fille d'un disciple avancé de ce musicien, donc elle-même musicienne, et je l'ai acheté comme ça, et quand je l'ai lu un petit peu plus tard dans l'avion en rentrant, maintenant je suis installé à Goa en Inde, et quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis mis à pleurer de joie, d'émotion. Je sentais quelque chose de tellement, un contact tellement fort avec ce musicien et qui jouait de tous les instruments, qui recueillait des enfants de la rue, qui leur apprenait la musique, qui faisait un orchestre. Enfin, il les nourrissait bien sûr aussi, il s'occupait d'eux et tout ça. Il était d'une telle générosité, à la fois très très strict et tout ça. Mais et puis un musicien. Et c'est le père de Ali Akbar Khan, qui est mort aussi maintenant, mais qui vivait en Californie après, qui a fait une école de musique très sérieuse. Très connu là-bas, et c'est aussi Ravi Shankar a été le premier mari. En général, les Occidentaux, s'ils connaissent un nom dans la musique indienne.
Au moins Ravi Shankar.
Voilà, ouais. Ravi Shankar, parce que il y avait les Beatles, voilà, il a été à Woodstock, tout ça, enfin, il y a tout. Mais donc Ravi Shankar était un disciple aussi, d'ailleurs, qu'il ne le trouvait pas si sérieux que ça, mais de Baba Alauddin Khan, et il a été le premier mari de Annapurna Devi. Qui est aussi je crois qu'elle est encore vivante, une musicienne hors pair, mais qui, due à la culture indienne, quelque part, a fait le vœu pour ne pas faire d'ombre à son mari, son premier mari, Ravi Shankar, de ne jamais faire de concert en public. Et donc, elle est restée, elle a une vie presque de... Enfin, elle avait quelques élèves. Et donc, elle a enseigné à Chaurasia. Et lui, preuve de sa volonté et de son humilité, parce qu'elle trouvait qu'il avait pris des tas de défauts en apprenant des musiques beaucoup plus...
Pour Bollywood.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est là qu'il est devenu... il s'est mis à jouer comme un gaucher ça fait quand même... Moi, si on me demande de jouer comme ça, je peux sortir quelques sons, mais ça change beaucoup.
Faut tout recommencer, ouais.
Voilà. Et donc, c'était un acte pour lui montrer à quel point il avait envie d'apprendre. Parce qu'au début, elle ne voulait pas l'accepter comme élève, quoi, comme disciple. Et voilà. Et je me suis un peu perdu dans tout ça.
Non, tout à fait. Mais c'est de cette manière-là que Chaurasia garde ce plaisir de vouloir transmettre.
Voilà. Mais alors, donc, dans mon cas, quand même, c'est une génération beaucoup plus récente. Presque à l'opposé de ça, pas spécialement Chaurasia, mais il y a beaucoup de musiciens indiens qui retirent une certaine fierté d'avoir des élèves qui viennent d'Occident pour apprendre avec eux. Donc, ils ne sont pas du tout à les rejeter.
Ouais.
Par contre, c'est comme plonger dans la classe, surtout au moment où j'ai commencé à apprendre avec lui. On étudiait dans une classe comme si, au lycée de Die, il y avait une salle que la mairie mettait à disposition pour apprendre la musique, quoi. Donc on entendait les sonneries des récréations, et il y a parfois des élèves qui venaient s'asseoir un peu, puis comme une volée d'oiseaux, puis qui repartaient après comme ça. C'était très roots, quoi, je veux dire. C'était pas du tout formel.
Ouais.
Et n'importe qui pouvait venir, simplement. Il n'y a pas du tout première année, débutant, tout ça. On est jeté direct, surtout à l'époque, lui, il était... Parce que maintenant, il a une gourukul, c'est-à-dire vraiment une école, et puis... Il est quand même plus âgé, puis il soigne plus. Il y a des disciples, surtout des Indiens, qui vivent là. Et donc, c'est tous les jours, c'est plus... c'est moins sauvage et, voilà, et beau, dans le sens où... Là, à l'époque, il avait beaucoup... Il était là 2-3 jours, et puis après, juste d'une classe sur l'autre, il nous disait quand il serait là la prochaine fois, quoi. Et on était entre, parfois 3 et 15 ou 20 disciples, quoi, dont des Indiens, souvent... déjà bien dégrossi, quoi. Et donc, c'était plutôt pour pas déranger qu'au début, on n'ose pas jouer, quoi.
Ouais.
On écoute, on se fond comme ça. Et puis, à mesure qu'on commence à... Bah, un petit peu comme les Africains, quand on voit comment ils apprennent le djembé quand ils sont petits. J'avais vu des reportages sur Mamadi Keïta et tout ça. Donc,
au moment où tu sens le feeling qui est en train de venir, là...
Voilà, on se lance. Puis quand tout le monde joue, bon, c'est un peu moins...
Ça se voit pas.
Ça fait un peu confiture, quand même. Et voilà, donc peu à peu, on se lance. Et puis alors, quand il y avait un joueur de tabla qui était là, et ben là, il lance une composition, c'est-à-dire un thème. Et là, tous ceux qui étaient capables de... D'abord, on la joue tous ensemble un petit moment. Et puis ceux qui l'ont attrapé, comme un ami disait, c'est le ticket pour avoir le droit. Alors, ceux qui peuvent, ils improvisent. Alors là, on était sur la sellette en face de... C'est très impressionnant.
Pour se donner une idée, t'as mis combien de temps, toi, avant de te lancer ?
2 ans pour comprendre que si je voulais vraiment apprendre, il fallait mettre ça comme priorité dans ma vie et aller en Inde, la moitié de l'année, enfin le plus longtemps possible. Et après, j'ai étudié vraiment 7 ans plein pot, y compris 4 ans à Rotterdam, mais où j'allais quand même en Inde. Je n'étais à Rotterdam pratiquement que quand lui il était, et j'ai réussi à faire le cursus comme ça. Mais j'ai l'impression que j'apprenais beaucoup plus quand même en Inde que dans le conservatoire, quoi. Ensuite, on continue sans arrêt, mais au bout de, disons finalement, 7-8 ans, j'avais quand même accumulé de quoi... me voler un peu de mes propres ailes. Et puis, dire quand j'ai commencé, j'avais déjà une 30aine d'années. Alors, il fallait bien que je aussi gagne ma vie et tout ça. Et c'était... voilà, moi, je sais que, au début, j'ai été touché dans le cœur. Vraiment, il y a quelque chose qui m'appelait dans cette musique. Et puis après, j'ai commencé à comprendre. Il y a aussi des tas de règles et tout le côté comment ça marche un petit peu. Et là, du coup, on peut goûter aussi des tas d'autres aspects, comprendre comment c'est amené, comme ça, toute cette subtilité.
Il y a une hygiène de vie qui vient avec, une autre manière de penser aussi.
Tout à fait.
Alors, on arrive au terme de cette interview parce qu'on s'est laissé, on y va, il n'y a pas de problème, il faudrait en faire une deuxième avec toi, je pense, Étienne. On est limité par ces 50 minutes de notre programmation. Malgré tout, j'ai envie qu'on dépasse encore un petit peu, ne serait-ce que pour que tu nous joues un dernier raga et que nous rappelions ce concert de musique indienne au gîte La Belle Étoile, 550 chemin des Morans à Minglon, samedi 26 août 2017. Dans une certaine heure de la soirée, vous pouvez vous inscrire. Voilà, je vais réussir à le dire.
C'est même recommandé.
C'est recommandé auprès de Marie-Ange, puisque sans doute les places sont un peu limitées au 06 81 97 15 81. Une petite participation consciente, telle qu'elle est notée, de 5 euros. Pour voir donc ce projet d'Étienne Souryanil, accompagné de Joan Pinero au tablas. Il nous est précisé aussi de se garer dans le village et de marcher jusqu'au gîte. Voilà, donc tu reviens quand tu veux, surtout à ton prochain concert. Comme ça, on continue cette exploration de l'Inde, Étienne. Et on se quitte avec un dernier raga.
Eh bien, très volontiers. Donc là, je vais mettre un peu de tabla. Je vais revenir à mon premier raga, la jog, avec un rythme à... à Sestan qui s'appelle Tintal.
Et merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive. Restez connectés sur RDWA. Retrouvez cette interview sur internet www.rdwa.fr.